Donc Isabelle, et le thème de ton intervention.
Alors je vais parler de pratiques pédagogiques sur des situations dites artistiques, voilà. Mais je me présente, donc moi j'étais instite dans des écoles banales, c'est-à-dire une maîtresse ou un maître, une classe. Donc j'étais quand même très isolée, j'ai eu beaucoup de mal à travailler dans les écoles. J'étais une instite en plus sur le tard, c'est-à-dire que j'ai démarré dans l'enseignement, j'avais déjà 35 ans. Je n'étais pas formatée comme mes collègues dès le départ. Donc j'ai été isolée dès le départ dans les écoles où je travaillais. J'ai trouvé des complicités, heureusement, de collègues, mais ça restait des complexités de quelques collègues, et généralement j'étais quand même considérée comme l'instit pas normal, quoi, dans l'école. Voilà. J'en avais pris mon parti, et je me suis auto-formée en me dirigeant vers l'ICEM, donc Pédagogie Freinet, qui m'intéressait beaucoup. GFEN, j'ai même fait des stages GFEN pour approfondir certaines choses, etc. Donc j'ai tapé un peu dans tout ce qui existait dans les mouvements pédagogiques que je connaissais, et j'ai élaboré en fait mes pédagogies dans ma classe et quand même dans l'école. J'ai réussi dans certaines écoles où je travaillais élargir le conseil de classe en conseil d'école. Donc j'ai quand même réussi à faire bouger les lignes dans certaines écoles, mais c'était pas évident. Et je vais parler donc de pratiques artistiques. C'est ça qu'on m'a demandé un petit peu de traiter, parce que c'est quand même quelque chose aussi de très particulier. J'ai élaborer ma pédagogie d'une manière globale sur le collectif. J'étais maîtresse dans une classe, et moi j'avais pas le choix, hein. C'était comme ça, j'étais nommée dans une école que j'avais pas choisie d'ailleurs au départ, bon, et j'étais maîtresse dans ma classe, bon, et mon problème c'était que, ayant été moi-même une mauvaise élève et malheureuse à l'école élémentaire, j'avais horreur de l'école quand j'étais enfant, et je voulais absolument, mon premier objectif c'était que les élèves de ma classe aient du plaisir à venir déjà à l'école, et ensuite trouvent du plaisir à apprendre, à rentrer dans les apprentissages. Et pour ça, il fallait sortir du système individualiste que l'école proposait systématiquement, pour rentrer dans un système plus collectif d'entraide, de coopération entre enfants. Et il n'y a que comme ça, je ne pouvais pas envisager que les élèves de ma classe puissent apprendre s'ils ne passaient pas par cette entraide. Mais passer par l'entraide et la coopération, ça veut dire un énorme travail de mise en œuvre. Alors au départ, de ma part à moi, c'est-à-dire mettre en place dans la classe des systèmes régulateurs qui soient respectés. Donc j'avais repris de la pédagogie Freinet le quad neuf le matin, les conseils de classe toutes les semaines, où on gérait les conflits, la vie de la classe, et très rapidement après les projets de la classe. Tout ça, mais ça s'est élaboré sur des années, c'est-à-dire que chaque année j'arrivais à lâcher ce fameux pouvoir de maître après Dieu dans la classe, petit à petit, en prenant de l'expérience, etc. Tous les ans j'arrivais à lâcher un peu plus, voilà. Et tous les ans c'est les élèves qui s'emparait de la gestion de la classe. Maintenant, donc, j'essayais de mettre en œuvre un début d'autogestion par les enfants. tout en sachant qu'il ne fallait pas tomber dans la démagogie non plus. Les parents confient quand même leurs enfants à l'école aux enseignants et j'étais garante quand même de leur sécurité, hein, ça, et de, au moins de leur entrée dans les apprentissages. C'était ce que j'expliquais aux élèves en début d'année. J'avais des grands, hein, des CM2, et je leur expliquais qu'il y avait un certain, des points où je gardais l'autorité complète de poser un veto par moment sur des décisions. Si je pensais, je m'en expliquerais évidemment, mais si je pensais que ça mettait en jeu apprentissage de manière importante ou leur sécurité. Ah, voilà. Donc, parce que l'institution pèse lourd, mais aussi mon rapport aux parents. Donc, les parents d'élèves n'étant pas habitués à voir arriver une enseignante, comme moi, la manière dont je travaillais, donc j'ai été obligée très rapidement de réfléchir comment je mettais en place aussi ma relation avec les parents. C'est-à-dire, dès le mois de décembre, j'organisais des réunions avec les parents à l'école et pour essayer les enfants de la classe, par petits groupes, etc., qui avaient pris ça en main, qui, chaque groupe expliquait aux parents une des activités qu'ils faisaient. Qu'est-ce que c'est le quoi neuf? Qu'est-ce que c'est le conseil de classe? Qu'est-ce qu'on fait en français, on va écrire un conte, on va faire ci, on va faire ça, les projets, etc. C'est les enfants qui invitaient les parents dans la classe pour leur expliquer tout ça. Et petit à petit, les parents se familiarisaient, me connaissaient mieux et acceptaient en fait ce fonctionnement qui était inhabituel pour eux. Surtout que je restais la seule dans l'école à fonctionner comme ça. J'ai réussi à faire accepter des choses à des collègues, hein, mais un vrai fonctionnement d'école. Ma seule réussite, c'était le conseil d'école, ce qui était déjà pas mal. Enfin, le conseil d'école, d'élèves d'école, voilà, hein, où on gérait, par exemple, la cour, et tout ce qui était collectif à toute l'école était géré par ce conseil. Ce qui est déjà pour moi était énorme d'avoir obtenu ça dans une école tout à fait traditionnelle où ce n'était pas du tout dans la tête de mes collègues. Voilà. La pratique artistique, donc, dans la classe, alors au début, je suis partie tout de suite sur les arts plastiques, mais en fait, c'est parce que c'est ma formation. Je m'étais aperçu que moi j'avais une formation art plastique avant d'être instite et qu'en fait c'était la chose que justement je ne savais pas enseigner du tout et même chose un petit peu pour ce qu'on appelle maintenant la production d'écrit, qu'on appelait avant les rédactions, etc., c'est-à-dire le fait de s'exprimer par écrit et d'écrire. Ça ne m'avait jamais posé aucun problème parce que je sortais d'un milieu relativement favorisé où il n'y avait pas de télévision, etc. Et moi, lire, écrire, c'était des choses normales. Et je me trouvais face à des enfants pour qui c'était une énorme difficulté, l'expression orale comme écrite. Et là, je pensais à ce que je disais à propos de Vitruve et puis le petit film avant. Il fallait... Là, je savais... En fait, moi, c'était un peu l'inverse. Je trouve que c'est les choses qu'on connaît le mieux, qui sont le plus difficiles à enseigner. Parce que pour nous, c'est évident. Donc il faut arriver à virer des évidences si on veut pouvoir aider les enfants à s'emparer des apprentissages et de l'activité. L'activité artistique, je l'ai toujours proposée aux enfants dans du collectif. Mais je dois reconnaître qu'à l'époque, je n'avais même pas réfléchi à la question, c'est-à-dire que pour moi, c'était évident. Si on faisait des arts plastiques, par exemple, c'est les enfants qui, au cours d'un conseil, ont proposé que la classe s'inscrive. Il y avait une sorte de petit concours que la mairie proposait pour les... Un concours de sapin de Noël, il fallait faire des affiches sur Noël avec des sapins de Noël. Bon. Et les gamins voulaient s'inscrire. Bon, de toute façon, ça leur plaisait, donc pas de problème, ils s'inscrivent. Hein. La classe donc, était inscrite. Et là, c'est élaboré, effectivement, collectivement. Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme sapin ? Grande réflexion. Donc, toute la classe en cercle, comme en conseil, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire ? Sur quoi ? Sur quel support ? Etc. Bon. Et petit à petit, ils ont pris des décisions. Et ça s'est... bon, ça s'est terminé par un collage, en fait. C'était un grand sapin très, très simple, dessiné et collé avec toutes les couleurs de vert possibles et tout. Ça t'arrivait... Moi, je trouvais que c'était superbe, d'ailleurs. Et les gamins étaient ravis parce que ils se sont aperçus que les arts plastiques, c'était pas... Parce que généralement, les gamins, ils disent, je sais pas dessiner. Donc là, je les bloquais pas, ils étaient pas dans le dessin, ils faisaient... Et ils ont en plus choisi la manière dont ils voulaient travailler, ce qu'ils pouvaient obtenir, ce qu'ils voulaient vraiment le collage. Et je leur avais demandé d'apporter des arguments et puis même des exemples de collage pour qu'ils montrent aux copains ce que ça pouvait donner, etc. Donc, après ça, moi, j'évaluais aussi mon travail et je réfléchissais. Et je suis arrivée à me dire, oui, bon... C'est intéressant parce qu'en fait, ça casse aussi le mythe de l'artiste solitaire qui fait son œuvre. Actuellement, on est dans une société où c'est ça qui fonctionne. Hein. C'est des starlettes de la chanson. On doit être un grand peintre, on doit être un grand ceci, un grand cela. Et c'est toujours très, très individualisé. Contrairement dans l'histoire de l'art, on sait que c'était beaucoup plus collectif à d'autres périodes. Et donc là, c'était intéressant de faire travailler les enfants sur le collectif. Et j'ai remarqué après coup que jamais aucun enfant n'a demandé à être particularisé. Le fait de travailler dans le collectif, ils trouvaient ça normal, quoi. Ça leur posait aucun problème. Et l'avantage du collectif, c'est que, d'abord dans le plaisir quand même, dans l'échange, dans le plaisir, on est arrivé quand même, par exemple, on faisait du roller aussi dans la classe. Hein. À l'époque, j'avais proposé de s'inscrire au patinathlon, on était dans le Val-de-Marne, il y avait un patinathlon, des rencontres donc de toutes les classes de CM2 en roller, avec des tas d'épreuves en roller, et il y avait une proposition qui était faite dans le patinathlon de danser en roller. Et j'avais dit, c'est dans les propositions, est-ce que ça vous dit et puis... il y en a un d'ailleurs qui dit, c'est au conseil, hein, toujours tout ça, les projets, il y en a un qui dit oui, et puis si on danse, ça serait plus facile d'avoir, comment c'était, la médaille d'or. Il y avait une médaille d'or pour les classes qui avaient plus de points, je ne sais pas quoi, ou toutes les épreuves. Et fin de compte, on est parti là-dessus, on a démarré avec des enfants qui ne savaient pas faire de roller du tout. Donc on a trouvé des astuces pour au début, en prenant une chaise comme ça, assez légère, et puis la chaise, ça faisait un peu comme un déambulateur, et ça permettait aux gamins de ne pas tomber tout le temps. Donc on a démarré avec ça, et petit à petit, avec des jeux, etc., ils ont pris de l'assurance, et le patinathlon avait lieu au mois de juin, en collectif, ils ont dansé, et ils ont dansé en couple. C'est-à-dire qu'il y avait le groupe, mais qui marchait par couple, mixte, garçon-fille, ce qui était quand même assez phénoménal en CM2. Hein. Ce n'est pas les âges où les enfants sont prêts à travailler garçon-fille comme ça. Et c'était assez une pratique artistique, donc assez réjouissante, et pour eux, et pour moi. Et je dois reconnaître que toutes les pratiques artistique que j'ai mis en place avec eux était vraiment réjouissante, quoi. Vraiment, il y avait un plaisir à faire tout ça. Et petit à petit, c'est... le reste de l'école quand même a vu des choses. Par exemple, j'ai fait un stage de théâtre après, bon, et je me suis lancé dans « on va faire du théâtre avec ma classe ». Bon, c'est pareil, c'était des choses de, toujours risquées. Et c'est tout l'intérêt du métier d'instit, moi, je trouve, c'est qu'on est constamment dans les choix, des risques, etc. Bon, moi, j'avais malheureusement pas Vitruve. Je pense qu'à Vitruve, l'école de Vitruve, j'aurais été super heureuse. Mais c'était à Paris, j'étais dans le Val-de-Marne, ça n'existait pas. Bon, et j'aurais été vraiment ravie là-bas. Mais le théâtre, par exemple, les gamins étaient tellement branchés par moments qu'il y a eu des séances où ça bouffait sur la récré, et comme on était sous le préau. Eh bien, ils faisaient théâtre devant toute l'école, sous le préau, pendant la récré. Et ils mimaient, par exemple, par groupe, des contes de fées, et tous les autres devaient trouver quel conte ils mimaient. Et je peux vous dire que c'est pareil, c'était complètement réjouissant, éclatant, et pour ceux qui jouaient, et pour tous les autres qui regardaient, qui participaient, voilà. Donc, c'est... la pratique artistique permet de quand même d'élargir sur l'école, d'élargir sur les parents qui suivent tout ça. Moi, en fait, en tant qu'enseignante, j'apportais parfois des éléments techniques, s'ils avaient besoin, hein, mais les projets, généralement, venaient d'eux. En tout début d'année, les premiers projets venaient de moi parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des projets et d'avoir un conseil de classe et de décider de choses, etc. Donc, en début d'année, j'impulsais un ou deux projets, des projets relativement courts. Et après, ça venait d'eux. Alors, il y en a qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Il y a des projets qui sont tombés à l'eau. Moi, je me disais, tiens, la semaine prochaine, ils vont en parler, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas mis. Ils n'en parlaient pas, je ne disais rien. J'ai laissé des projets tomber complètement à l'eau, puisque, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Hein, c'était. Donc là, je vous parle un petit peu hein, de tout ce qui est mis en œuvre, parce que la pratique artistique était assez importante, en fait, dans ma classe. Entre le théâtre, le chant, parce que j'avais une guitare, on chantait beaucoup. Il y avait le théâtre, il y avait les arts classiques, parce qu'ils adoraient ça, et moi aussi. Hein, et c'était une époque, je ne sais pas si maintenant je pourrais le refaire, c'est-à-dire que quand il faisait un temps de chien l'hiver et tout ça, on faisait une après-midi entière d'arts plastiques, et puis quand il faisait beau, on faisait une après-midi entière de roller, de balade, etc. Donc je ne sais pas si maintenant ce serait encore autorisé avec l'étau qui se resserre autour des enseignants. Hein. Ils peuvent jouer sur les horaires comme moi je faisais. Je me permettais, c'est vrai, de faire beaucoup de choses comme ça. Et la pratique artistique arrivait dans presque tous les domaines, y compris la classe transplantée, où je leur avais parlé du mouvement impressionniste, donc ce mouvement où on a pu aller peindre dehors. Avant, les peintres ne peignaient qu'en atelier. Donc, on avait emmené de la peinture et tout. Ils ont peint des marines, parce qu'on était partis on partait en classe de mer tous les ans. Et donc, voilà. Et alors, toutes ces choses-là, après, revenaient à l'école. Il y avait des expositions dans l'école, il y avait le théâtre dans l'école. Et revenaient en direction des parents. Ce qui fait que... malgré tout, j'arrivais à créer des liens avec d'autres, avec des collègues et des autres enfants. Commençais à voir. Je suis pas restée suffisamment longtemps encore. Il aurait peut-être fallu que je reste 20 ans pour que je fasse bouger plus les choses dans l'école. Hein. Mais l'étau se resserrait quand même autour de moi aussi. Hein. Et les changements de direction, les machins, et les... bon, c'était toujours compliqué. Hein. Donc, l'idée aussi, c'était de travailler donc, au travers de tout ça, d'être pratique artistique entre autres, l'autonomie, la coopération entre élèves, et ça fonctionnait en fait de mieux en mieux, c'est-à-dire que le premier trimestre n'était pas toujours évident, et à partir de janvier, j'avais des classes, par exemple, où les enfants avaient arrêté de se battre, il n'y avait plus de rapports physiques violents, et ils réglaient les conflits au moment des conseils, et ça se passait très bien. C'était des vrais conseils, hein, c'est-à-dire que au début d'année, je dirigeais le conseil pendant à peu près un mois et demi, et après, c'était les enfants qui géraient complètement le conseil. Si j'avais quelque chose à dire, je devais lever la main comme eux. J'étais à pied d'égalité sur les interventions. Hein, c'était, c'est hyper important. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire passer auprès des collègues. Comment t'acceptes d'attendre ton tour, etc. Parce que j'ai même eu des conseils où le président du conseil faisait semblant de ne pas me voir et il sautait mon tour, parce que là, la parole, elle tourne. Hein, et il faisait semblant de ne pas me voir et il sautait mon tour. Donc à la fin du conseil, je relevais la parole pour dire on a sauté mon tour, c'est pas juste. Bon, après, ils ne le faisaient plus. Mais ils ont essayé. C'est normal. Bon, c'est vrai que dans ces conseils, ceux de la pratique, des pratiques artistiques, etc., elles partaient souvent du conseil. Ils avaient des propositions à faire, hein, après, de plus en plus. Et puis, quand ils voyaient que ça fonctionnait et qu'il fallait la mise en confiance, quoi. Ils se méfiaient de moi quand même, hein, parce que j'étais la première instite à fonctionner comme ça dans l'école. Donc, ils se méfiaient quand même beaucoup de moi. Et puis après, quelques années dans l'école, ils se méfiaient moins, mais par contre, ils arrivaient en CM2 en disant « Ouais, en CM2, c'est le pied, on va dessiner, on va faire ci, on va faire ça, on va partir en classe de mère et tout. » Mais les apprentissages, donc il fallait que je recadre aussi l'entrée dans les apprentissages, plus qu'avant, à la limite. Hein, oui, on va faire tout ça, mais on va aussi... pour écrire un journal, ben, faut savoir écrire. Parce qu'on élaborait un conte en commun aussi. Ben alors, pour moi, c'est dans les pratiques artistiques autant que dans l'apprentissage du français, hein, et de l'oral et de l'écrit, puisque l'élaboration du conte se faisait à l'oral, on enregistrait, quand les bonnes phrases étaient validées. On pouvait les écrire, etc. Bon. Et puis, il y avait le journal de la classe. Enfin, bon, il y avait énormément de choses, en fait, hein, dans la classe. Et la pratique artistique, elle était mêlée à tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être arrêter là. Parce que vous avez peut-être des questions à poser.
Ils ont des questions, ouais. J'imagine. Bien, qui souhaite interroger Isabelle ou témoigner sur d'autres pratiques artistiques que vous avez pu développer dans tel ou tel espace scolaire.
Bonjour, je ne souhaite pas spécialement me présenter si c'est OK. Merci. Moi, j'avais une question vis-à-vis de... Quand vous avez parlé des quads neufs, je voulais savoir ce que c'était. Et aussi, vous avez parlé à un moment donné... J'arrive, hein. Voilà, vous avez parlé de conseil d'école. Je voulais savoir en quoi ça consiste aussi.
Alors, je vais répondre très rapidement, peut-être. Le quad neuf, c'est un quart d'heure tous les matins. Hein, c'est tiré de la pédagogie Freinet. Hein. C'est un quart d'heure tous les matins. C'est un enfant qui... Pardon ? Ah non, c'est un enfant qui préside le quad neuf. Un autre enfant est gardien du temps. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, on arrête. Et ils ont une liberté quasiment totale de parole. C'est-à-dire qu'ils peuvent raconter ce qu'ils ont fait la veille ou le machin, ou présenter un truc qu'ils ont envie de présenter. Mais c'est extrêmement libre. Il y a des enfants qui viennent pour raconter le jeu vidéo qu'ils ont fait. Enfin, je veux dire, voilà. Et le président donne la parole à ceux qui veulent poser des questions. Et ce quad neuf, par contre, il y a un engagement de tous les enfants et mon engagement aussi, ce qui est dit dans le quad 9, normalement, ne sort pas de la classe. Ça, sauf, alors moi je suis obligée de m'engager aussi là-dessus par rapport à eux, sauf si je pense qu'ils racontent quelque chose qui se passe à la maison et que c'est dangereux, qu'ils sont enfants battus, n'importe quoi, inceste, n'importe quoi. Je ne parle pas de mot inceste aux gamins, hein, mais je leur dis qu'il y a un moment, si je pense qu'il y a danger pour eux, etc., je serai obligée, en tant qu'adulte, d'en parler à l'extérieur. Voilà. Donc c'est la seule chose. Hein. Sinon, tout ce qu'ils racontent reste dans la classe. Et il y a un autre impératif, mais formel, vraiment sur lequel on ne peut pas revenir, c'est interdit de se moquer de celui qui parle. Donc ça, et moi j'étais vraiment là-dessus, c'était, s'il y en a un qui ricane, qui se moque, etc., il est exclu, mais alors quasiment immédiatement. Hein, il va dans la classe d'à côté le temps que le quad 9 se termine. Il reviendra au quad 9 du lendemain, mais bon. Et en fait, j'ai fait ça pendant des années et on n'a jamais eu à exclure un enfant du quad 9. Le conseil qui dure une heure, le conseil de classe qui dure une heure, je le faisais le vendredi, y a eu des exclusions. D'autant plus que c'est des élèves aussi qui président. Et il y a trois avertissements. Et au troisième, tu dégages, tu vas dans une autre classe, tu reviendras au conseil suivant. Mais, il y a des règles très strictes. C'est-à-dire qu'au conseil, on est forcément en cercle. Tout le monde doit se voir. On n'a pas le droit d'interrompre. Les règles sont posées d'une manière vraiment très stricte. Ce qui fait que ça fonctionne rapidement, très bien, et que les élèves... Il y a des gamins qui veulent perturber au début, etc. Ben, troisième avertissement, quand c'est un enfant qui préside, il ne fait pas de cadeau, encore moins que la maîtresse. Ça, quand tu dégages, tu dégages. Il n'y a pas de problème. Ils sont souvent terribles, bien plus que l'adulte. Hein. Il faut que ça marche, quoi. Et c'est très, très, très efficace. Et voilà. Donc, le conseil d'école, c'est deux élèves de chaque classe qui sont élus dans les classes et qui viennent porter une fois par mois la parole de leur classe, parce que s'il y a des problèmes dans la cour ou dans les escaliers, les descentes d'escaliers, entre autres, oui, etc., etc., il y a tous les problèmes qui peuvent être gérés ensemble. Là, moi, c'était du CP au CM2, quoi. Hein, voilà. Ça, c'est le conseil d'école que j'avais réussi à faire accepter dans l'école. Et c'était assez, assez sympa, quoi. Voilà.
Ouais, si tu me permets, pour revenir sur le quad 9, ça permet aussi aux enfants de se libérer d'un certain nombre de choses qui empêcheraient la progression et les apprentissages.
Tout à fait.
Ça libère d'un poids cognitif important pour certains qui avaient envie de parler de ça avant de commencer à travailler.
Il y a ça, et puis il y a... moi, j'ai eu vraiment des cas où les enfants racontaient que leur appartement avait brûlé la nuit même, quoi. Donc, il fallait qu'ils puissent raconter ça en arrivant à l'école. Ils ne pouvaient pas se mettre au travail sans avoir parlé d'événements qui étaient arrivés à la maison, des fois graves. Enfin, les CP particulièrement, qui ont moins de filtres encore que les plus grands, hein, qui racontaient... Moi, j'ai eu une classe de CP où il racontait que son père avait balancé la télé sur sa mère et qu'il n'y avait plus de télé à la maison. Et bon, et ben, quand il avait raconté ça, après, on pouvait passer à autre chose. Lui, il ne pouvait pas passer à autre chose avant qu'il l'ait dit. Hein, voilà. Donc, ça allait vraiment des choses comme ça, familiales, au gamin qui arrivait avec, je sais pas moi, une étoile de mer qu'il avait dégotée je sais pas où et qui voulait présenter à ses copains. Voilà, c'était très varié, quoi. Très mal vu des inspecteurs, éducation nationale et tout, en général, parce que pour eux, c'est pas pédagogique. S'ils faisaient un exposé, c'était bien, mais venir parler qu'ils ont fait un jeu vidéo, vraiment, c'était très mal vu en général de la hiérarchie. les quads neufs. Hein, ça. Mais j'ai toujours tenu et personne n'a jamais osé me l'interdire. Parce que j'ai eu des parents d'élèves qui ont essayé de faire des pressions sur moi, sur différentes choses, et à chaque fois, ma réponse c'était, bah, écoutez, d'accord, et bah, écrivez à mon inspecteur ou mon inspectrice, et puis quand j'aurai un écrit de ma hiérarchie pour m'obliger à arrêter de faire ça, et ben à ce moment-là, j'arrêterai. J'ai eu le cas, entre autres, pour la phrase qui était en exergue tous les ans, parce que je faisais un gros travail là-dessus avec mes élèves, et c'était la phrase c'était la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Elle était en exergue au-dessus du tableau. On avait fait un travail autour de ça dans la classe. Hein. Et j'ai eu des parents d'élèves qui ont dit « Mais il faut m'enlever ça !» Et puis alors, ils savaient de quoi ils parlaient, parce qu'ils disaient « C'est Bakounine !» Bon, alors, moi, j'ai joué à l'idiote en disant « Je ne veux pas !» Mais de toute façon, je ne l'enlèverai pas, sauf si... je reçois un ordre écrit de ma hiérarchie me demandant d'enlever. Alors, allez-y, faites votre demande. Et je n'ai jamais reçu d'ordre écrit de ma hiérarchie. Je ne sais même pas si le parent d'élève est allé plus haut. Mais voilà, parce que forcément, ces manières de travailler, ce n'est pas vitruve. C'est-à-dire que là, je n'avais pas une équipe solide pour me soutenir. Et il fallait que je trouve des moyens, des fois, de... voilà, bon. Mais j'ai eu à l'inverse des parents d'élèves, au contraire, hyper dynamiques et sympas. Quand j'ai emmené ma classe de CM2, par exemple, au prud'homme, pour voir un vrai tribunal des prud'hommes en action, il y avait un jugement et tout ça... Bon, ben là, j'avais les parents d'élèves, ils voulaient tous accompagner, quoi, pour aller voir. Bon, et en histoire, par exemple, j'ai eu tout et le contraire. Hein, les parents d'élèves n'étaient pas contents parce que je trouvais que je passais très très vite sur Napoléon, et puis ceux qui étaient au contraire très contents parce que j'étais une des seules instits qui travaillait le 19e siècle et le début des partis politiques, des syndicats, etc. Et c'était dans les programmes. Hein. Donc, voilà, les prud'hommes, c'est dans les programmes. Voilà. Donc, c'est très... il faut se battre, quoi. Bon, je pense que c'est encore plus dur maintenant s'il n'y a pas une équipe d'école. Hein.
Il y a d'autres interventions ? Voilà, donc je me déplace ici parce que ça passe sur Radio Liberté, Virginie.
Bonjour, Virginie, je viens de Rouen. J'ai été instite pendant 40 ans. Là, je suis en retraite. Et juste pour dire que j'étais adhérente au groupe Freinet de Seine-Maritime, l'ICEM. Et donc je te remercie déjà de ce témoignage. Je trouve ça super de montrer que des choses sont possibles quand même, y compris dans l'école publique et avec un système qui est quand même très hiérarchisé et de plus en plus autoritaire. Ceci dit, moi, avec le recul maintenant que j'ai, je pense que je n'ai jamais aussi bien pu vraiment mettre en jeu mes conceptions sur l'éducation que quand il y avait une équipe et même quasiment quand l'école totale fonctionnait. Voilà, de façon coopérative, parce que c'est quand même très compliqué quand on pense qu'il faut que le gamin change de statut. Je dis le gamin, j'étais en primaire aussi, moi. Les droits de circulation dans les couloirs, par exemple, le droit de rester dans les salles pendant les récréations, le droit de se rassembler dans les halls, de faire des choses sans adultes. Ça, c'est quand même très compliqué quand on a sa classe tout seul, parce que ben, très souvent, on te dit « Bah non, pourquoi toi, tes élèves, ils ont le droit de se balader comme ils veulent ?» etc. Bon, ça, pour moi, c'était l'un des premiers obstacles. Et j'ai eu l'occasion de visiter, pour une formation que j'ai faite, pour un master en sciences de l'éducation, justement, de voir différentes écoles Freinet complètes fonctionner. Bon, je dis freiner parce que j'ai vu que ça, hein, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et là, c'est carrément différent, quoi. Il y avait cette possibilité, justement, pour les gamins de changer de classe parce qu'ils avaient un projet maths avec un autre groupe d'enfants. Et de dire, eh ben voilà, tiens, je m'en vais, moi, pendant cette heure-là, hein, je ne serai pas dans la classe. Hein. Bon, ils prévenaient quand même, mais ils s'en allaient, quoi. Et ils allaient bosser dans un coin de couloir, dans le CDI, enfin, la bibliothèque, etc. Donc ça, je trouve ça très important. Et aussi, la possibilité avec l'équipe de faire des pôles, d'apprentissage, c'est-à-dire que tu n'as pas dans chaque classe le coin lecture, le coin histoire, le coin maths. Là, c'est au niveau d'un établissement et ça enrichit vraiment les possibilités. Tu as le coin science, hop, et les gamins de tous âges peuvent se retrouver au coin science et échanger là-dessus. Et c'était la même chose pour toutes les activités. Donc ça, j'ai trouvé aussi que c'était une liberté supplémentaire qui était donnée aux gamins. Et ce dont tu parlais sur l'éclatement de l'emploi du temps, c'est aussi l'un des leviers sur lequel je pense qu'il faut agir. On n'est pas dans ces classes traditionnelles où de telle heure à telle heure on fait telle chose. Mais là, effectivement, des gamins qui te disent nous, on va pas en récréation parce qu'on n'a pas fini notre petit boulot là sur l'exposé ou sur le truc. Les horaires sont remis en cause, mais ça, ce n'est possible, à mon avis, que quand il y a vraiment, en tout cas, presque l'équipe complète qui fonctionne comme ça, quoi. J'ai vu cette différence-là, tu vois. Et ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de la classe, ce n'est pas possible, mais je pense qu'on est beaucoup plus soumis aux limitations de la structure institutionnelle qui s'impose à nous. Alors, donc moi, inutile de vous dire que sur les 40 ans que j'ai fait, j'ai eu que 2 ans vraiment bien, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et en tout cas, quand je croise d'anciens élèves, puisque je vis encore à l'endroit où je bossais, ils m'ont dit, les conseils de classe, c'était quand même vachement bien. Hein. Ils ont retenu que des trucs comme ça. C'est ce que tu disais, quoi de neuf, conseils de classe, les projets qu'on faisait, voilà. Et ça reste dans la vie d'un adulte, quoi. Il a vécu ça étant gamin, ça reste. Et c'est quand même si on le fait qu'à un niveau de classe, c'est quand même un bouleversement du statut de gamin, d'une possibilité qu'ils ont eu à un moment de faire quelque chose qu'ils avaient vraiment décidé. Voilà. Et juste pour dire que là, je suis un peu toujours de loin ce que font les collègues des groupes de l'ICEM. Ils sont beaucoup aujourd'hui sur ce qu'ils appellent l'école à l'extérieur. Ils vont dans la forêt. Hein. Puis il n'y a pas de justification à donner. On a fait des maths, on a fait des sciences, on a fait du français. On a fait. C'est une façon pour eux. Je vois à la fois de sortir de l'école, de sortir de ces bâtiments contraignants et de ces horaires, mais aussi de partir de ce qui est vivant, de l'observation. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui leur donne justement, enfin, qui donne aux collègues cette force de dire tous les éléments du programme, on les traite aussi, mais en partant de l'expérience et du vivant. Voilà. C'est un peu leur façon de s'en sortir aujourd'hui aussi par rapport à l'institution. Il y aura peut-être d'autres choses en tout cas, merci.
Oui, 2 choses qui ont été dites qui étaient intéressantes, c'est qu'il y a des gamins dans ces classes-là qui ne veulent plus aller en récréation, et vous avez vu dans le film sur Jacotot, il y en a même un qui dit « on venait pendant les vacances ». Vous imaginez bien que ça change complètement la structure de l'école et ce qu'on y fait et pourquoi on y est, quoi. Donc, une prise de parole.
Oui, une intervention rapide. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir, pas du tout en tant qu'enseignant, mais en tant qu'intervention extérieure, samedi, il y avait la possibilité. Et je me suis toujours intéressé aux Amérindiens, donc le copain qui était dans cette école m'avait demandé de venir, d'autant plus qu'il y avait une classe qui avait travaillé cette année là-dessus. Et juste une anecdote qui me paraît quand même essentielle et qui rejoint d'ailleurs ce que tu as dit à un certain moment. en arrivant dans la classe, j'ai dit, bon, on va se tenir en rond, voilà. En plus, ça correspondait bien à ce qui se passe justement dans les sociétés amérindiennes, où le rond est plus préféré. Bon, ça, c'est autre chose. Et j'ai demandé que l'institutrice vienne. Bon, elle était un peu gênée, bon, mais bon. Et ça a changé beaucoup de choses, j'ai senti. Tout simplement, l'autorité, être au-dessus, etc. Enfin bon, je ne détaille pas, hein, ça paraît évident. Et c'était très intéressant parce qu'en plus, il y a des élèves qui sont venus me voir après, qui m'ont parlé de ce qui se passait dans leur famille, parce que j'avais parlé comment ça se passait à la famille là-bas. Enfin, c'est, je ne dis pas que c'est le seul élément qui a joué. Mais ça les a sortis du système un peu qui peut être hiérarchique quand même, autorité, etc. Enfin, de toute façon, tu l'as dit dans ton intervention. Hein.
Moi, mon aménagement de classe, de toute façon, n'était pas comme aujourd'hui, là. mes élèves bossaient par quatre, par îlot de quatre. Voilà. Et si vous voulez changer de place, parce qu'il y avait un conflit ou qu'ils en avaient marre d'être... Il fallait attendre le conseil du vendredi parce qu'un seul élève qui changeait de place, ça faisait déranger tous les autres. Hein? Donc, il fallait négocier les changements de place, etc. Hein? Mais déjà, moi, j'évitais ce côté frontal, hiérarchique, en les faisant travailler par groupe. Hein? Voilà. Et ça fonctionnait, c'est pareil, ça fonctionnait très très bien. Et les problèmes aussi des horaires et tout ça, c'est vrai que je ne sais pas si maintenant ce serait encore faisable. Parce que moi, je jouais énormément. Ma classe, très souvent, descendait pas en récré. Hein. Mais parce qu'ils ne voulaient pas. Voilà, on était dans un projet, dans la récréation... C'était pas en début d'année, oui, ils étaient sur le fonctionnement des années d'avant, donc c'était sacro-saint. Et puis au bout d'un moment, petit à petit, ils bouffaient la récréation à tel point que des fois, moi, c'était moi qui les disais stop, on arrête tout, vous allez prendre l'air, et puis moi aussi, quoi, ça va. Mais c'est vrai qu'ils étaient dans une activité. Je comprends très bien qu'ils n'aient pas envie de l'arrêter. C'est le principe Montessori, entre autres. Quand un enfant commence quelque chose, on le laisse aller au bout.
Merci Isabelle. On va passer une petite musique et puis on demandera à Luc d'intervenir. Sachant que si on n'est pas en rond, il y a sans doute des raisons, et des raisons techniques en particulier liées à la radio.